Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Contre le racisme et les violences policières, un samedi de mobilisation partout dans le monde, près de deux semaines après la mort de l'Afro-Américain George Floyd, manifestation massive attendue à Washington, une portion de rue a été renommée. En France, manifestation dans une dizaine de villes, alors que les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits pour raisons sanitaires. Il était le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel, tué par l'armée française lors d'une opération au Mali. C'est la fuite dont la majorité n'avait pas besoin. Les conseils de Gilles Legendre, patron des députés En Marche sur le futur remaniement, font grincer des dents. La politique, c'est Chris, c'est cool, il a bien connu, mais c'est pour un documentaire que Daniel Cohn-Bendit est votre invité à 8h20, Eric.
Oui, effectivement, Daniel Cohn-Bendit qui s'interroge sur son identité juive. Ça donne un documentaire qui sera diffusé demain dimanche sur France 5 vers 23h. Et vos questions à Daniel Cohn-Bendit, c'est maintenant 01 45 24 7000.
Un premier week-end vraiment déconfiné. Mais un d'idée à minima, 76e anniversaire du débarquement en Normandie, des restaurants lyonnais qui ne font pas encore le plein, et puis un premier concert en plein air, enfin plutôt dans les voitures à Albi hier soir, nous y serons. France Inter. Les organisateurs espèrent voir défiler jusqu'à 1 million de personnes dans les rues de Washington tout à l'heure, capitale fédérale des États-Unis, 12 jours après la mort de George Floyd, cet afro-américain de 46 ans, asphyxié par un policier blanc lors d'une interpellation à Minneapolis. Depuis, la colère ne retombe pas, d'autant que plusieurs vidéos ces derniers jours montrent des interventions policières musclées dans les manifs. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes aujourd'hui, New York ou encore Miami, mais dès hier, dans la capitale fédérale des États-Unis, une action symbolique, une partie de rue a été rebaptisée à Washington, Grégory Phillips.
Sur décision de Muriel Bowser, la maire démocrate et afro-américaine de Washington, la nouvelle signalétique a été posée hier matin. Cette portion de la 16e rue, au croisement avec High Street et qui est juste en face de la Maison Blanche, s'appelle désormais Black Lives Matter Plaza. Ça fait 47 ans que j'habite cette ville, dit Carla. Et vraiment, c'est historique, incroyable. Jamais je n'aurais pensé que la maire aurait fait cela. Mais elle l'a fait. Je suis fier d'elle. Au même endroit, qui depuis 10 jours est le lieu de rassemblement des manifestants, la mairie a aussi fait peindre sur le bitume le même slogan « Black Lives Matter » en lettres jaunes et géantes. Et la phrase s'étale sur trois blocs d'immeubles, presque jusqu'à la Maison Blanche. La Maison Blanche a été bâtie par des Noirs, constate Douai, plus précisément par des esclaves. Donc je trouve ça bien d'avoir cette phrase qui mène jusqu'à la résidence de celui qui dirige ce pays. Mais l'antenne locale de l'organisation Black Lives Matter dénonce une performance artistique destinée à détourner l'attention et réclame que la ville de Washington réduise le budget de sa police et finance plus de projets de soutien à la communauté afro-américaine. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd à Rayford, en Caroline du Nord, l'état où il est né. En France, mobilisation dans une dizaine de villes aujourd'hui pour dénoncer la mort de George Floyd, mais également pour demander la vérité sur celle d'Adama Traoré lors de son interpellation en 2016 dans le Val d'Oise. Mardi soir, ils étaient plus de 20 000 à manifester à Paris, alors que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits pour raisons sanitaires. Le préfet de police de Paris a également pris un arrêté, Faustine Calmel.
Les rassemblements qui ont fait l'objet d'une déclaration officielle sont interdits. C'est le cas à Paris pour deux appels à manifester devant l'ambassade des États-Unis, secteur on ne peut plus sensible, tout près de l'Élysée. Un autre rendez-vous donné, lui, sur le Champ de Mars via les réseaux sociaux est également prohibé, indique la préfecture de police, qui estime que les incidents en marge de la mobilisation mardi dernier laissent craindre des troubles à l'ordre public. D'autres appels ont été lancés à Marseille, Nantes, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier et Rennes. Là, les autorités sont vigilantes et prudentes. Surveillance rapprochée, intervention mais seulement en cas de débordement, pas de dispersion. A priori, si tout se déroule dans le calme et le respect des gestes barrières, des rassemblements qui, ces derniers jours, ont vu défiler énormément de jeunes, pas forcément politisés ni rompus aux manifestations. Pour certains, c'est leur première participation. Un peu comme leur démarche pour le climat, explique une organisatrice à Marseille qui voit dans ses nouveaux soutiens l'occasion de peser dans le débat public.
Faustine Calmel et plusieurs milliers de jeunes, justement hier soir à Strasbourg, 1500 à Rouen, manifestation émaillée par des heurts avec la police. Des messages racistes attribués à des policiers publiés sur Facebook. Le parquet de Paris saisi par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et qui ouvre une enquête pour injures publiques à caractère raciste et provocation publique à la haine raciale. De nombreux messages haineux, sexistes ou encore homophobes publiés par les membres de ce groupe.
C'est l'une des informations de la nuit, la mort d'un des plus importants chefs djihadistes au Sahel.
Abdel Malik Droukdel dirigeait Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué mercredi par l'armée française dans le nord du Mali. C'est la ministre des Armées, Florence Parly, qui le confirme sur Twitter. L'Algérien était à la tête d'ACMI depuis 2007, figure du djihad algérien et africain. Son portrait avec Claude Guibal.
Son nom se confond avec l'histoire du djihadisme en Afrique du Nord depuis ses débuts pendant la décennie noire en Algérie où ce jeune diplômé en chimie rejoint les rangs du GIA dont il devient l'artificier. Mais les frontières algériennes ne lui suffisent pas. Son modèle, il le trouve en Oussama Ben Laden qui, avec les attentats de 2001, a projeté l'islamisme armé dans une dimension internationale. Droukdel prête allégeance et fonde en 2007 ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, une filiale dont l'influence va gangréner tout le Sahel. Sa méthode, les attentats suicides, les gros coups, le racket, les enlèvements, le contrôle des routes de contrebande, maître du désert, mélange de grand banditisme et de terreur religieuse. Son influence était fragilisée par ses rivalités avec ses autres frères de djihad, Mokhtar Belmokhtar ou Iyad Haghrali, fragilisée aussi par la montée en puissance de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara. Sa mort, si elle est loin de signifier la fin d'ACMI, est une très grande victoire pour les forces de Barkhane qui, en éliminant l'insaisissable Droukdel, montrent leur capacité de renseignement et l'efficacité d'opérations de plus en plus ciblés.
Et plusieurs collaborateurs d'Abdel Malek Droukdel ont également été tués lors de cette opération militaire française. La majorité sous tension en France gronde dans les rangs des députés La République En Marche. Le président du groupe du parti présidentiel à l'Assemblée, Gilles Legendre, contesté. Et puis cette note confidentielle que s'est procurée l'hebdomadaire Marianne n'arrange rien. Gilles Legendre y donne son avis, ses conseils aussi sur le remaniement attendu sans doute après le second tour des municipales. Il suggère notamment de nommer Jean-Yves Le Drian à Matignon, Manuel Valls au Quai d'Orsay ou encore lui-même ministre des Relations avec le Parlement, bronca chez une partie des députés et un incident de plus dans la majorité. Yael Gauz.
Gilles Legendre l'a confié à ses proches. J'ignore tout de ce coup tordu, mais une chose est sûre, il contribue au bordel ambiant. Car au-delà des maladresses contenues dans cette note qui aurait dû rester confidentielle, c'est bien la fuite qui pose question. Une sale opération de flingage, regrette un cadre de la majorité. Sale, parce que Legendre se retrouve affaibli, mais indéboulonnable, car élu et réélu dans les règles. Sur les boucles télégrammes des marcheurs, certains exigent des explications et rapidement. Réunion de groupe houleuse en perspective mardi prochain, ça craque de tous les côtés. S'inquiète un député influent. Bienvenue à Guignol-Land, se lamente un autre. Car cet épisode ne fait qu'ajouter de la crise à la crise, avec la création récente de deux groupes dissidents qui ont fait perdre la majorité absolue à la REM, et puis ces alliances à droite aux municipales, contraires aux consignes nationales. Depuis le déconfinement, la perspective du remaniement échauffe les esprits, on se pousse du col, y compris chez les ministres. Après Gérald Darmanin, c'est Marlène Schiappa qui partira bientôt à l'offensive pour porter la jambe gauche du macronisme. Un député marcheur s'interroge, y a-t-il encore un pilote à la REM et un DRH à l'Elysée?
Yael Gauz. À l'étranger, la menace de Jair Bolsonaro, le président brésilien, de quitter l'Organisation mondiale de la santé. L'Agence des Nations unies a averti les gouvernements latino-américains du risque de lever les mesures de confinement avant d'avoir réussi à ralentir la propagation du coronavirus. Le ministère brésilien de la Santé qui a cessé de donner le nombre total de morts, mais on le sait, il dépasse les 35 000.
En France, plus de 29 000 morts du coronavirus, mais toujours moins de malades en réanimation dans les hôpitaux.
Épidémie sous contrôle, mais le virus circule toujours. Voilà le message de prudence des autorités et des cérémonies du 76e anniversaire du débarquement 6 juin 44 sous le signe des gestes barrières et de la distanciation sociale. Illustration au cimetière américain de Colville-sur-Mer dans le Calvados. Il surplombe Omaha Beach. Reportage Benjamin Hilly.
Le souffle de la plage d'Omaha Beach qui arrive jusqu'ici, le cimetière américain de Colville-sur-Mer avec ses croix blanche à perte de vue. Et le carillon qui joue l'hymne américain. Près de 10 000 tombes de soldats inaccessibles avec des barrières qui ont été installées.
Laetitia.
Vous venez d'où ?
Bretagne, Morbihan. J'étais là il y a un an et c'est pas du tout la même ambiance, quoi. C'est vraiment c'est triste, quoi. Il y avait tous les gradins qui étaient montés, le tapis rouge qui était déroulé pour les vétérans. Ouais, c'est dommage.
Et quelques visiteurs de passage. 250 par jour depuis la réouverture. Habituellement, à cette période de l'année, il y en a plutôt 4 000 ou 5 000.
Je
suis M. Scott Desjardins, le directeur du cimetière américain à Colville-sur-Mer. Ça va être une cérémonie comme on n'a jamais vu. On ne s'approche pas plus de 2 mètres. Il n'y aura pas d'échange de jarbes d'une personne à l'autre. Il y a de la frustration, surtout à Normandie. Hein, le 6 juin à Normandie, c'est la journée de l'année.
Une cérémonie fermée au public, évidemment. Seulement 8 personnes seront présentes, des représentants des communes alentours, de la préfecture et du département.
On espère que ça va être meilleur l'année qui vient.
Signé Benjamin Illy. Premier week-end déconfiné donc en France avec l'autorisation de franchir les 100 km autour de chez soi. Mais week-end morose en perspective pour les bouchons lyonnais. Ces restos typiques qui ont pu rouvrir mardi, mais c'est pas encore vraiment la grosse affluence, Christophe Vincent.
Certes, les bouchons historiques sont exigus, mais le problème majeur n'est pas là. Arlette Hugon évoque l'annulation des salons, des festivals, l'absence de repas d'affaires, de touristes et le mauvais temps.
J'y croyais pas n'importe comment. C'est une période de test. C'est pas les clients, ça, c'est les amis. Mais heureusement qu'on les a. Hein. Si on ne fait pas 300 couverts par mois, on ne couvre pas les frais. Si ça continue comme ça, je pense qu'on va être vraiment dessous. On prendra 2 mois de vacances, tant pis. Hein.
Jean-Luc Place rouvrira mardi son célèbre café des fédérations, sans illusion.
Compte tenu du confinement et quand même de la psychose ambiante, les gens préfèrent aller sur des terrasses, manger des grillades, des salades. On ne mange pas une tête de veau au mois de juillet, au mois d'août, comme on mange une tête de veau en novembre.
Hervé Durafour aime la tête de veau, l'andouillette et la quenelle, alors il se rattrape.
J'en pouvais plus. Je buvais tous les soirs pour noyer mon chagrin, c'est vous dire. Je me fais fort de venir soutenir les bouchons lyonnais, la tradition lyonnaise, parce que ça fait partie de la culture de Lyon. C'est un acte pour montrer que la vie continue, que le Covid n'aura pas raison de nous. Et vive les bouchons.
Sans modération. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Voilà, une tête de veau au petit déjeuner, pourquoi pas. Une rencontre à présent, une rencontre avec un entraîneur frustré, triste et un peu en colère aussi.
Christophe Furios, manager de l'Union Bordeaux-Bègles, leader incontesté du championnat de France de rugby. Mais le coronavirus est passé par là, la saison de top 14 arrêtée, elle ne sera pas relancée. Christophe Furios est retourné au club pour la première fois cette semaine avec des souvenirs de grands matchs au stade Chaman Delmas plein la tête.
Pour nous, notre leitmotiv de la saison, c'était faire chanter Chaban. Alors évidemment qu'au départ, on voulait tous se qualifier. Mais plutôt que de charger la haute, on s'était dit, bon, on a tous cette ambition, mais ce qu'on veut, c'est faire chanter Chaban. Je me disais, en faisant rechanter Chaban, ça veut dire que les gens vont venir au stade, ça veut dire que les gens vont se retrouver dans cette équipe. Et pour moi, c'est essentiel. Le sport, c'est ça.
Le mot partage, il est particulièrement important pour vous, non ?
Il est essentiel, encore une fois. Partage avec nos supporters, partage avec les joueurs, partage au niveau du club. Moi, je vis le sport comme ça. C'est ce qui m'intéresse dans le sport. Après, évidemment que c'est gagner des titres, évidemment que c'est être le meilleur possible, évidemment que c'est chercher à progresser. Mais tout ça, c'est la conséquence d'un partage, en fait.
Et du coup, quand on est privé de ce partage dans cette période si particulière, comment on le vit ?
Moi, j'ai le sentiment qu'on nous a enlevé un peu toutes ces notions de plaisir, en fait, donc de partage. Plaisir d'aller manger un morceau avec un pote, plaisir de boire un coup avec un pote, plaisir de se rassembler, plaisir de faire un barbecue, plaisir d'aller travailler socialement, avoir ce lien. Mais en même temps, mais ça va nous permettre d'apprécier ces moments aussi.
Du coup, le huis clos pour le retour à la compétition, vous y êtes favorable ?
Pour moi, ça n'a aucun sens. On fera bien ce qu'on nous dira de faire, évidemment, au-delà de l'aspect économique qui va être dramatique. Mais ce qui nous fait vivre, ça reste évidemment le match, le tour du match. Franchement, jouer devant un stade vide, pour moi, n'a aucun sens.
Christophe Furios, entraîneur de l'Union Bordeaux-Bec, que Guillaume Batin est allé rencontrer chez lui près de Bordeaux. Et puis un petit tour dans un drive-in pour refermer ce journal à Albi hier soir. Concert du groupe Boulevard Désert, solidarité avec les techniciens du spectacle. Un concert à distance, dans les voitures, enfin à moitié dehors et à moitié dedans, Stéphanie Glézis.
Sur scène, les deux groupes et le chanteur y étaient bien, mais pour les entendre, il fallait rester dans la voiture, théoriquement masqué, et brancher l'autoradio. Alors évidemment, comme le dit Jean-Luc...
Super sympa, même si côté ambiance, ça manque un peu de proximité avec le chanteur.
Daniel relativise.
Ah, c'est pas un vrai concert comme on habituellement, mais c'est sympa quand même. Ça permet de sortir et de s'amuser quand même, vu la situation. C'est signe qu'on recommence à revivre un peu normalement et que tout se remet en place. Quoi. Ça fait du bien, beaucoup.
Et les fans de Boulevard Désert viennent parfois de loin, comme Christiane.
Ah, on adore. Ouais, surtout surtout qu'on a fait 6 heures de route pour venir. On arrive de Vendée.
Pour les applaudissements, il y avait évidemment les klaxons. Béatrice a sorti hier toute son équipe de travail.
C'était une super occasion de faire un truc ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu le faire, donc c'était super.
Florent Dasque et Sylvain Dutu de Boulevard Désert sont sortis heureux de ce premier concert drive-in, même si...
Bah écoute, pas évident, parce que c'est vrai qu'il y avait un décalage entre la scène et le son que recevaient les gens. Donc très heureux quand même de retrouver ce lien avec les gens ce soir, même si les conditions idéales de concert n'étaient pas réunies.
Nous, on a l'habitude de voir ce public éclectique dans nos salles. C'est magnifique de le voir aussi sur des voitures.
En tout cas, à entendre les nombreux coups de klaxon, tout le monde a passé une bonne soirée, même si à la fin, les portes des voitures ont fini par s'ouvrir. Toulouse, Stéphanie Iglesias, France Inter.
Voilà, et finalement, plus de monde dehors que dedans, pas facile de résister.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.